Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en solo, bande-annonce.
Vous savez certainement qu'il y a la fâcheuse question de votre race.
Tu ne peux pas imaginer à quel point la vie d'artiste est difficile. Surtout maintenant.
Si tu apportes peu de bagages, personne ne croira que tu pars pour de bon.
Oh, papa!
Bienvenue en France.
Il y a tant de soleil, tant de lumière.
Je sens que tu vas être heureuse ici.
Grand-mère!
Elle ne va pas très bien.
C'est comme une maladie qui coule dans les veines!
Je sens ce démon qui a hanté tant de membres de ma famille.
François est allé voir Charlotte, un film réalisé par Éric Varin et Tariq Rana, avec les voix de Marion Cotillard, Anne Dorval et Romain Duris. Et c'est un film francophone, on va dire francophone.
Voilà,
canadien, belge, français, francophone.
On s'y est mis à plusieurs. Charlotte raconte l'histoire vraie d'une artiste peintre qui s'appelle Charlotte Salomon, qui est une actrice juive qui a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale et tuée en camp de concentration. Et sa peinture est très particulière puisqu'elle a réalisé des milliers de peintures alors qu'elle est morte à un très jeune âge, hein, dans le début de sa vingtaine. Et c'est des peintures qui évoquent la vie de sa famille, son histoire personnelle. Et c'est considéré comme étant peut-être le premier roman graphique de l'histoire, dans le sens où elle a fait énormément d'images qui racontent une histoire personnelle et qui vraiment déroule une histoire. Donc c'est un personnage qui était revenu sur le devant de la scène parce qu'il y avait eu un roman, je crois, de David Fuenkinos qui est là sur la table de Nam, je le vois d'ici.
Ah, ce qui sert,
qui s'appelle Charlotte.
Qui sert à équilibrer ma
voilà.
Télé.
Voilà.
Désolé.
C'est bien, Nam a l'air de découvrir
qu'il a de la littérature. Alors, je crois que c'est sur Charlotte Salomon et c'est lui qui avait un peu relancé cette figure. En tout cas, je sais, en France, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je me semble que c'était par là. Donc, on va suivre la vie de Charlotte en Allemagne avec la montée du nazisme, donc avec les moments assez attendus où elle veut s'inscrire à l'école des beaux-arts. Elle, évidemment, elle est dans un style plutôt expressionniste, comme à la mode de l'Allemagne de l'époque, ce qui ne va pas du tout au pouvoir en place, et en plus elle est juive, donc autant vous dire que elle finit par s'enfuir en France sur la Côte d'Azur. Elle vit dans la demeure d'une riche américaine qui passe par là. Et c'est là où elle va principalement faire sa peinture. En parallèle de ça, parce que, alors ça c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant dans le film et dans l'histoire de Charlotte Salomon, c'est-à-dire que, bon, cette histoire, on a des équivalents d'histoires d'artistes qui ont été déportés. Et elle, en fait, elle a une histoire aussi familiale qui est très singulière, puisque elle était élevée par son père et sa belle-mère. Son père était médecin et sa mère était morte. On ne sait pas, au début, pas pour quelle raison, et on finit par apprendre pourquoi. Puisqu'en fait, quand elle s'est réfugiée en Côte d'Azur, elle est aussi avec ses grands-parents qui sont là, et sa grand-mère, on se rend compte qu'elle fait une profonde dépression. En tout cas, qu'elle a un trouble mental très profond, qui n'est pas forcément identifié. Et sa grand-mère va finir par se suicider. Et Charlotte va aussi apprendre que sa mère s'est suicidée. Et donc, elle-même se dit, finalement, il y a quelque chose d'héréditaire, une espèce de malédiction familiale. Alors, est-ce que c'est une maladie génétique, ou est-ce que c'est une prédisposition? Ou est-ce que c'est une reproduction de la maladie? On ne sait pas forcément, mais en tout cas, elle a cette espèce d'enjeu aussi à travers sa peinture de réussir à s'affranchir de cette malédiction familiale, si on peut ainsi dire. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Le film, du coup, donc c'est un film d'animation. Je pense que c'est très intéressant pour un public jeune, puisque c'est quand même bon, toujours l'histoire, devoir de mémoire, histoire de la Seconde Guerre mondiale, surtout à notre époque. Je pense que c'est bien d'en remettre une couche. À partir du collège, quand même, parce que c'est un film qui est très dur. Le suicide de la grand-mère, on le voit. On voit une tentative de suicide auparavant. Et après, elle se retrouve toute seule. Charlotte se retrouve toute seule avec son grand-père. Et son grand-père est un homme relativement malfaisant, on va dire, en tout cas, qui a aussi des problèmes. Mais en tout cas, elle ne peut pas continuer à vivre avec son grand-père. Et à un moment, elle va décider de le tuer. Donc, il y a une histoire de meurtre dans cette histoire-là. J'ai trouvé la scène hyper questionnante. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que elle le tue juste parce que, alors qu'elle pourrait peut-être partir, il y a peut-être d'autres échappatoires, mais sa seule échappatoire à elle, c'est à ce moment-là de le tuer. Et je trouve que le film déjà montre un fait qui est extrêmement ambigu moralement et ne porte pas jugement dessus, et on peut vraiment se faire son propre avis par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas sur le plan purement du film, très intéressant. Du scénario, on va dire. Sur le plan esthétique, alors déjà je vais parler du doublage. Moi, quand je vois qu'il y a un doublage avec des stars, en général, je me dis « Ah non, non, non !» Très bien. Eh ben, le doublage est très bien. Marion Cotillard, Anne Dorval, Romain Duris, vraiment, ça apporte beaucoup de texture au film. Ça apporte d'autant plus de texture que le film, quand même, est malgré tout un petit peu rigide. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un film qui n'a pas un budget énormissime. Et l'animation est quand même un petit peu droite, un petit peu saccadée. En termes de design des personnages, de design des décors, on est dans un style très grand public, très classique. Il y a la volonté de faire un petit peu écho à la peinture de Charlotte Salomon, mais on n'est pas du tout dans l'aspect expressionniste qu'elle peut avoir. Juste, par exemple, dans les tableaux de Charlotte Salomon, il n'y a pas du tout de noir, donc les contours des personnages, par exemple, sont en bleu.
Voilà,
donc on retrouve ça, par exemple, dans le monde. Donc il y a quand même une petite pervasivité entre la peinture et le dessin animé, mais pas plus que ça. Et la manière dont la peinture est représentée, tu sais, il y avait eu ce film d'animation qui s'appelait Le Tableau, où tu avais vraiment un mélange entre la peinture et l'animation, où les personnages sortaient du tableau.
Ça me dit quelque chose, ouais.
Voilà. Là, il n'y a pas vraiment ça, c'est-à-dire que quand elle peint, on va avoir des moments où sa peinture apparaît, mais tu vois, c'est vraiment l'animation un peu Photoshop, où le truc apparaît au fur et à mesure, ouais. Un peu en se déployant, et c'est un peu dommage parce que tu ne retrouves pas vraiment les traits de l'artiste. Moi, j'adore les biopics de peintres, c'est un truc que j'adore, et un truc que j'aime dans les biopics de peintres, c'est de voir comment ils peignent. C'était très bien fait dans le Renoir, dans le Turner, ça c'était pas mal du tout.
Il y avait le film sur Pollock aussi.
Le Pollock que j'ai pas vu, mais d'ailleurs qu'il faut que je vois.
Je te conseille.
Bah oui, parce que je pense qu'en termes de méthode, ça m'intéressera. Là, quand même, tu vois, dans le film, il y a un truc où on la voit peindre, on la voit en train de travailler, mais tu vois, t'as pas ce geste de la main, et en animation, c'est très dur à faire les animations de main qui peignent, et ça m'a un petit peu manqué.
J'avais déjà du mal, d'après ce que tu dis, sur l'animation classique.
Oui, voilà, déjà,
c'était... Bon,
puis c'est un peu dommage, à un moment, tu vois, par exemple, ils sont sur la Côte d'Azur et t'as les avions qui passent au-dessus d'eux et tu vois l'ombre des avions, c'est un petit peu trop minimaliste et c'est tellement dommage quand tu te dis que les avions auraient pu arriver dans la peinture, tu vois, ça aurait pu partir dans un truc beaucoup plus flamboyant. Après, je pense qu'il y a aussi la volonté de faire un film qui soit pas forcément arty et qui soit un peu plus grand public et qui raconte l'histoire de manière un peu plus directe et qui est pourquoi pas un ancrage plus réaliste aussi. Mm-hmm. Puisque, après tout, pourquoi pas. Et c'est quand même bien fait, hein. Enfin, là, je suis difficile. C'est-à-dire, il y a quand même une très bonne qualité d'animation. C'est quand même très bien. Même si, quand on est un esthète, je me tourne vers Nam, parce que Nam et moi, on aime beaucoup l'animation.
Mais surtout qu'on a eu des films d'animation avec justement cette dimension biographique très réussie ces dernières années.
Et puis avec oui, je pense à par exemple Joseph,
oui, voilà. Donc,
qui était absolument bouleversant comme film, mais qui, ça a beau être une histoire vraie, ils n'hésitaient pas à t'en rajouter.
Ouais.
Te donner bah de ouais de
bah là tu vois, je pense que Joseph c'était vraiment un film qui visait un public adulte,
oui.
Et là je pense que Charlotte, il y a vraiment l'idée d'avoir un public d'ado de 14 à 18 ans, tu vois,
parce que l'année dernière on avait dit le plus grand bien avec Nam, c'était Où est Anne Frank, qui visait ce public ado, et ça empêchait pas que ça soit particulièrement
flamboyant, visuellement, et là c'est pas le cas, donc ouais. Effectivement c'est ma réserve par rapport à un projet qui serait peut-être un peu plus
après bon c'est
ambitieux.
Harry Fullman qui est établi, qui a une maîtrise absolue,
c'est pas le même
budget.
Exactement.
Non plus, j'imagine.
Ah, je suis pas sûr qu'en termes de budget, je pense que ça doit être équivalent,
parce que je crois que c'était même un film de commande,
oui, c'était un film de commande,
donc il y a peut-être pas eu masse de budget non plus. Après bon, c'est vrai que Anne Frank, tu peux avoir du budget sur Anne Frank. Tu sais que c'est une histoire qui marche encore et qui peut attirer du monde.
Mais en tout cas, c'était sur ce type de sujet, ce film-là, il n'hésitait pas à aller dans la fantasmagorie, d'aller dans l'expressionnisme.
Alors que là, c'est pas le cas, parce que je pense qu'il y a vraiment, il y a un côté un petit peu scolaire au film. On va dire ça comme ça, gentiment. C'est pas une critique. Pareil aussi, la partition musicale, elle est assez jolie, mais tu vois, c'est des violons Seconde Guerre mondiale, quoi. On connaît un peu. Par contre, c'est bien dosé, c'est intelligemment fait. À chaque fois, c'est bien amené. Les dialogues sont très bien écrits. Il y a de très beaux dialogues. Il y a de très belles pensées philosophiques que Charlotte Salomon apporte. Les dialogues sont vraiment bien. Pour le coup, je trouve que les dialogues sont un step au-dessus, peut-être, du reste en termes de qualité purement artistique, on va dire. Et voilà. En tout cas, je le recommande parce que c'est une très bonne manière de découvrir l'œuvre de Charlotte Salomon, et je pense que c'est important de se connecter de n'importe quelle manière qu'on puisse aux artistes. Et je trouve que les biopics, pour ça, c'est vraiment... C'est une bonne porte d'entrée, quoi. C'est sympa.
Eh bien, merci.
La Troisième Rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.